La vie n'a pas de prix, entend-on souvent au détour d'une conversation. Et les catastrophes, naturelles ou non, vécues par l'humanité ces 5 premières années du XXIe siècle ne font que donner plus de force à cette affirmation. Encore faut-il le vivre de l'intérieur de soi pour croire encore à un futur possible. C'est cette prise de conscience qui éclaire le magnifique roman d'Afi Dagoun, dont nous parlons aujourd'hui dans un plus d'un titre, « Les Avenirs », un premier roman paru aux éditions Farago. Bonjour Afi Dagoun, bonjour Jacques Plaine. Afi Dagoun, on est heureux de vous recevoir ici à... Je vais le dire, à plus d'un titre, pour votre roman, vraiment magnifique, et puis aussi parce que vous êtes stéphanois et que, bien entendu, notre cœur bat toujours un petit peu plus fort lorsque les auteurs sont originaires de la région. Et donc, je vous laisse avec Jacques pour parler de votre passé qui est quand même très proche.
Oui. Alors, je voulais dire à Figagoun les quatre raisons qui faisaient que j'étais très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Anne-Marie. D'abord, parce que votre roman est exceptionnel. Deuxièmement, parce que vous êtes stéphanois. Troisièmement, parce que vous êtes un ancien élève du lycée Claude Fauriel. Et quatrièmement, pour une raison que personne ne sait ici, c'est que vous avez fait une école, on va dire une école de librairie, bien que ce soit un petit peu différent, puisque c'est l'école des métiers du livre d'Aix-en-Provence.
Oui, c'est ça.
Alors, vous nous parlez un petit peu de cette école, ça fera parler des libraires, des éditeurs, et de ce qui vous a peut-être amené aussi au métier.
Mais en fait, après avoir fait deux licences, histoire de l'art et lettres modernes, je me suis posé la question toute simple, c'est qu'est-ce que je veux faire vraiment professionnellement, puisque ça faisait des années que j'écrivais, je savais que je voulais devenir écrivain, qu'il fallait s'accrocher, que j'y arriverais, mais en même temps je me disais il faut travailler. Donc j'ai trouvé cette formation à Aix-en-Provence, métier du livre, donc c'est un DUT, et ça a été passionnant, parce que pendant 2 ans on ne parle que de livres. Mais pas simplement dans le côté rêverie, le livre et simplement des sphères littéraires, mais aussi concrètement. C'est-à-dire qu'on avait des cours de fabrication, de droit, tout ce qui est lié au livre, de la fabrication jusqu'à la vente. Donc on avait des cours de librairie, de bibliothèque et d'édition. Aix-en-Provence, c'était plus axé sur l'édition. Moi, à la base, je voulais devenir... éditeur pour plus tard, et librairie. C'était mes deux axes forts. Et parallèlement, il y avait bibliothèque. Donc, grâce à ça, j'ai pu revenir encore à Saint-Étienne, parce qu'il faut toujours des occasions de revenir, en dehors de la famille. Et donc, j'ai fait un stage à la bibliothèque, à la médiathèque de Saint-Étienne.
Donc, ici même.
Voilà, ici même, pendant une semaine à Carnot et une semaine ici. Donc, c'était un plaisir de revenir encore, et dans le cadre du livre. Ça a été une formation très très enrichissante parce que les professeurs étaient tous professionnels dans leur matière et passionnés. Donc ils véhiculaient une passion qui est devenue vraiment une gangrène. Quoi. Chaque étudiant était heureux d'être là. Moi c'est la première fois que j'allais en cours, j'étais heureux. Quoi. Il y a certains cours où j'y allais à reculons, mais les métiers du livre, à la Cité du Livre, à la bibliothèque Méjeanne, c'est pour ça que j'aime beaucoup les médiathèques, il y a des choses très importantes qui s'y passent, c'était vraiment une maison mère. Aix-en-Provence, pour moi, le centre de la ville, c'était vraiment cette Cité du Livre.
Et alors, les autres élèves qui étaient avec vous, normalement, vous devriez en retrouver dans la vie de tous les jours, puisqu'ils sont tous dans les métiers du livre.
Ben oui, comme c'est une bonne formation, il y en a beaucoup qui ont trouvé du travail. Depuis 7 ans, je suis le seul à être devenu écrivain, mais beaucoup sont devenus libraires, bibliothécaires ou travaillent dans l'édition. À Paris, là où je vis, il y en a pas mal qui sont venus vivre aussi, trouver du travail pour l'édition, puisque l'édition, beaucoup de maisons sont là-bas, tandis qu'en bibliothèque et en librairie, il y en a un peu partout dans toute la France. Mais à Paris, j'en ai rencontré pas mal et il y en a certains que je revois. Et il y a une amie qui est même devenue l'attachée de presse de Farago, qui était dans ma promotion. Donc à partir de janvier 2005, elle va travailler dans un réseau d'attachés de presse. Et donc elle sort de cette promotion.
Alors quand on va parler de l'ouvrage, on va parler du temps très important, une soixantaine d'années, où le personnage principal a vécu dans une maison de maladie mentale. Et quand vous étiez stéphanois, vous disiez que vous y alliez de temps en temps à Saint-Jean-Bonnefonds et que ça vous avait impressionné.
Ben en fait, mes parents vivent toujours à Saint-Jean-Bonnefonds et j'ai grandi à Saint-Étienne de l'âge de 0 jusqu'à 6 ans, à Saint-Étienne, dans la ville, près du cours Fauriel. Mais à partir de 6 ans, à la naissance de mon frère, on est deux enfants dans la famille, on a déménagé à Saint-Jean-Bonnefonds. Donc c'est une petite commune très tranquille, 6000 habitants, un peu plus maintenant. Et donc, à Saint-Germain-de-Fonds, il y avait l'hôpital psychiatrique. Et moi, enfant, j'ai toujours vu ce monde d'extérieur. C'était un peu fascinant. Même dans mes années à Fauriel, on me disait « Ah, t'habites à Saint-Germain-de-Fonds, c'est chez les fous. » Alors que pour moi, ça voulait rien dire. C'était plutôt un bel endroit. Dans la forêt, on s'occupait de personnes qui étaient malades. Il y avait un profond respect pour ces personnes-là. Et du coup... En écrivant Les Avenirs, le cadre était déjà là concrètement dans mon imaginaire. J'avais besoin de raconter cette histoire dans un asile, mais j'en avais un dans la tête.
Alors vous venez de parler de Claude Fauriel. À Claude Fauriel, les plus grands souvenirs, c'est les souvenirs littéraires de professeurs.
Le premier souvenir que j'ai de Fauriel, c'est j'étais en troisième, et à la fin de l'année, on a visité le lycée où on serait chacun. Et donc... au mois de juin, on découvre Fauriel et c'était l'ancien Fauriel. Et j'étais très, très ému. Très ému par la cour. J'avais l'impression, ça y est, j'étais presque déjà étudiant. Il y avait un palier qui était passé. Toutes les images que j'avais en tête du lycée, des années lycée, parce que c'est un peu magique quand on est adolescent, le lycée. On se découvre, on découvre beaucoup de choses. Et d'être... À Fauriel, j'avais vraiment l'impression d'être privilégié, parce que c'était en même temps un beau lieu qui était centenaire, et j'aime beaucoup les choses qui ont une valeur profonde. Donc ça m'a beaucoup marqué, j'étais très fier d'être lycéen à Fauriel. Ensuite, bien sûr, il y a des professeurs. Pour la fête du livre, j'ai revu M. Lacroix, professeur de lettres. Je me souviens très bien de M. Perroche, des estrades à l'ancienne, que j'aimais beaucoup. Je suis un des rares derniers à avoir connu ça. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et il y avait une âme dans ce lycée. Et après la construction, je me suis rendu compte que l'âme était restée aussi, malgré l'architecture. Il y a quelque chose de très fort dans cet endroit. Et je sais que quand je viens voir mes parents et que je passe devant le lycée Fauriel, j'ai toujours une émotion parce que j'ai presque une envie. J'ai envie de redevenir adolescent et d'être là sur le trottoir et d'aller en cours. C'est bizarre.
Sur cette musique d'Henri Salvador, Chambre avec vue. Nous sommes aujourd'hui avec Afi Dagoun pour parler de son livre Les Avenirs, paru aux éditions Farago, un premier roman. un roman tout à fait impressionnant, Afidagoun, à la fois dans son écriture et puis dans son sujet. Vous n'avez pas 30 ans.
En fait, je suis en train de m'éloigner des 30 ans. Je vais avoir 32 ans cette année.
Bon.
Non.
On va dire que quand même, vous restez très jeune.
Ouais, c'est vrai.
Et mon estimation n'était pas très, tout à fait bonne, mais quand même. Et votre héros est un homme qui va avoir 80 ans. Ouais. Un homme dont la vie s'arrête, c'est comme ça que commence le livre, à l'âge de 17 ans. Alors, quand même, la première question que l'on se pose... quand on prend un peu du recul par rapport au roman, il faut un petit temps pour laisser les choses se reposer, c'est de savoir comment un homme jeune peut comme ça rentrer dans la peau d'un homme âgé.
En fait, j'ai incarné ce personnage facilement parce que j'ai grandi avec lui. C'est-à-dire que dans la première version, il a 17 ans. Et à la fin du roman, on se rend compte qu'il a passé toute sa vie dans cet asile. Et ensuite, j'ai travaillé la narration, j'ai pris à l'envers. Et donc, pendant 2 années où j'ai créé le personnage, je suis devenu Pierre Argan. C'est-à-dire que j'ai créé mon personnage, mais je me suis laissé prendre par la main par le personnage. Et du coup, je l'ai vraiment habité. Parce que j'estime que quand on écrit... on n'a pas d'image, on n'a pas les sons, les odeurs. Donc pour faire du concret, et en plus quand on a le souci d'universel, il faut vraiment se donner corps et âme au personnage et le laisser nous guider, pas le diriger. Sinon ça devient une marionnette, c'est pas intéressant, c'est trop artificiel. Donc comme je voulais pas de ce côté artificiel, j'ai vraiment joué le jeu de devenir Pierre Argan et me projeter dans son intimité, son affect, pour que moi-même je puisse ressentir ce que c'est d'avoir cet âge-là, cette mémoire-là brisée et ensuite qui revient. Et ça a été une question d'honnêteté en fait et de sincérité. C'est que j'ai vraiment aimé mon personnage et je me rends compte que je suis comme ça, dans l'écriture, pour le deuxième roman que je suis en train de travailler, j'ai la même approche de mon personnage, qui est un jeune homme de 30 ans, mais qui est entouré d'autres personnages. Et à chaque fois, je me rends compte que de se mettre vraiment, d'avoir cette humilité de s'oublier et de ne pas mettre de soi, mais d'y mettre un soi un peu secret et qu'on découvre en même temps qu'on écrit... Ça donne vraiment le corps au personnage.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que votre personnage donc retrouve la mémoire à 76 ans et on a très bien compris depuis le départ que l'écriture était vitale pour lui. Et puis il y a le livre qu'il écrit, qui s'écrit, qu'on lit finalement. Mais là on voit bien que dans le roman il y a 2 ans qui s'écoulent pour que ce livre naisse. Alors finalement ça correspond à la réalité. C'est ce que vous avez vécu.
J'ai vraiment vécu ces 2 années de silence. Après avoir écrit la première version, je voulais écrire un roman. J'avais écrit beaucoup de poésie. Et par la suite, j'en ai écrit encore. Mais après avoir écrit ce premier roman, je me suis dit, voilà, c'est une première version, mais ton roman, il est là-dedans. Il y a 300, 400 pages. Il faut que tu... Un peu ce rapport de sculpteur à la matière. C'est-à-dire que comme dans ces sculptures de Giacometti, on part d'un bloc et on va vers l'essentiel. Et moi, c'était le souci que j'avais, c'était d'aller vers l'essentiel du texte. Donc, il a fallu épurer, ôter. J'ai vraiment ressenti ce qu'on peut dire de l'écriture. C'est, écrire, c'est enlever, c'est faire silence. C'est Blanchot qui dit ça, Duras aussi, dans ce mouvement-là de silence. Pour que l'écriture prenne place. Mais pour ça, il faut s'enlever, il faut qu'il y ait une absence. Et pour accepter le vide, l'absence, il m'a fallu ce temps de silence pour faire autre chose, avoir un autre vécu et le recul. Puisque mon souci, ce n'était pas d'écrire un livre, c'était d'écrire et d'écrire d'autres livres plus tard. Donc, pour écrire un livre et écrire d'autres livres, il faut trouver sa voix. C'est un peu comme un musicien. avant de pouvoir jouer sur une scène, il faut travailler, travailler, travailler. Et moi, j'avais besoin de ça parce que pendant ces 2 années où j'ai pas travaillé les avenirs, j'ai fait autre chose. J'ai écrit mon journal, j'ai continué. Donc c'était un journal intime. J'ai continué la poésie. Ça m'a permis de trouver la voie.
Alors là aussi, correspondance qui n'est finalement pas si troublante que ça en vous écoutant. Vous avez fait le rapprochement avec le sculpteur, avec le musicien, finalement avec le créateur en général, par l'intermédiaire de la main. Vous avez dit, il faut enlever, comme le sculpteur, cette main qui a une place si importante dans le roman et qui donne à l'écriture un côté extrêmement charnel. L'écriture, c'est tout ce qu'il y a de plus intellectuel, mais en même temps, à travers ce que vous nous donnez, votre livre, ça devient extrêmement concret et charnel. Ça, vous l'avez vécu de l'intérieur.
Oui, je l'ai vécu de l'intérieur, mais c'est venu de ma personnalité de lecteur. C'est-à-dire que c'est très tôt dans l'enfance, j'ai su et ressenti charnellement l'importance des livres. Donc, cette présence au monde par le livre que me donnaient des auteurs. Le premier livre que j'ai lu, vraiment roman sans image, c'était La case d'oncle Tom, après Robinson Crusoe, mais vraiment des vrais romans que du texte et intégral. Je me suis rendu compte que les mots avaient un pouvoir et que ce pouvoir-là était illimité. Et ça m'a donné envie de lire de très tôt. Donc, le fait que dans l'écriture, j'ai cet aspect de réflexion sur l'écriture, c'est aussi le fait que je sois non pas un grand lecteur, mais un lecteur convaincu. C'est-à-dire, pour moi, c'est essentiel de lire, comme de respirer, comme de marcher, de manger. C'est vraiment essentiel.
Il y a une prise de conscience du pouvoir du mot, des mots, dont peut-être tout le monde n'a effectivement pas conscience, mais donc vous avez un sentiment aigu. Et finalement, c'est peut-être les autres qui ne voient pas bien.
Oui, et c'est un manque. Je pense que c'est vraiment un manque. C'est pas un privilège de lire ou de pouvoir lire ou d'avoir des parents qui ont une bibliothèque. C'est pas un privilège. C'est normal. Mes parents n'avaient pas beaucoup de livres, mais le peu de livres qu'il y avait, c'était des livres d'histoire, des livres de jardinage, de photos. Ben, c'était important. Ensuite, moi-même, je me suis fait ma propre bibliographie. Et c'est normal, il faut des livres. Moi, si je vais chez quelqu'un que je ne vois pas de livres, je me dis, oulala, c'est dangereux. Je regarde beaucoup la télé, je décortique la télé. Quand je suis sur Internet, il y a toujours la télé allumée, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais il faut avoir le regard critique. Et je pense que c'est une partie que les livres nous enseignent, c'est à dompter notre regard, à le maîtriser.
Mais il y a le premier livre, comme vous le dites, il y a le regard, et il y a le premier regard, parce que dans votre ouvrage, le premier regard, le premier souvenir, c'est à 2 ans.
Ouais, c'est pour ça que c'est aussi un livre sur le regard. C'est un livre sur l'écriture, le corps, mais aussi sur le regard, c'est que le premier souvenir concret que j'ai de ma vie, que j'ai retranscrit dans le personnage de Pierre Argan, sauf que moi c'était un hublot d'avion, parce que je suis parti en Algérie en avion, et le personnage c'est un hublot de paquebot, puisque c'est à une autre époque, et je voulais qu'il parte en bateau. Et c'est vraiment une vraie image qui symbolise un peu beaucoup de choses. C'est qu'une page, c'est aussi un espace limité, un écran, c'est un espace limité. Mais là-dedans, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose d'ouvert. Ce n'est pas une chose fermée qui nous emprisonne. Et moi, en partant de ce souvenir, ça a ouvert des choses. Ça n'a pas fermé, comme Pierre Argan qui se ferme dans sa mélancolie. Ça a au contraire ouvert la faille. Je parle de barrage qui cède. Et c'est un peu ce que provoque la perte du peintre, c'est que c'est une faille qui s'ouvre.
Alors on va y revenir, mais j'aimerais encore avancer un petit peu par rapport à cette écriture qui est à la fois le moyen du livre, mais aussi quelque part son sujet. On a l'impression que dans certains passages, c'est un cri d'amour pour l'écriture. Vous le dites, ça fait vivre.
Bien sûr. Je dis souvent, j'ai écrit ça quelque part et je l'ai repris, c'est que lire m'a vraiment sauvé la vie et écrire m'apprend à vivre. Et j'ai synthétisé ça dans cette phrase, mais c'est vraiment ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. C'est que... Mais on peut remplacer le verbe écrire par faire, par aimer, par tous les verbes d'action. Et lire, on peut le remplacer par rêver, par des verbes plus passifs. C'est qu'il faut que notre vie soit un mélange des deux, d'action, de rêve, de passivité, d'activité, de silence, de parole. Et c'est ce mélange des deux qui fait que j'ai trouvé ma place au monde et que ce livre, pour un premier livre et peut-être pour les suivants, je ne sais pas encore, c'est vraiment, ouais, comme vous dites, un cri d'amour pour l'écriture, parce que c'est... On a longtemps dit que l'écriture allait mourir à la fin du XXe siècle, que les livres électroniques allaient venir, que les écrans, que tout ça. Et en fait, on se rend compte pas du tout. La littérature jeunesse, elle est en plein boom. La littérature tout court, il y a de plus en plus de livres qui sortent et de bons livres. Il y a aussi de mauvais livres. Mais par exemple, en Angleterre, en Allemagne, il y a le double de livres qui sortent par rapport à nous. Pourtant, par rapport à l'Angleterre, on est un pays plus grand. Donc on a quand même, malgré ce qu'on peut entendre, on a quand même un souci de qualité. Et donc ça veut bien dire que les lecteurs, il y en a peut-être, il y a moins de grands lecteurs, mais il y a de plus en plus de lecteurs.
Chamfort, l'ennemi dans la glace. Alors, Pierre Argan n'a pas un ennemi en face de lui, il a lui. Lui qui a quitté son corps à l'âge de 17 ans, à la suite de la deuxième rupture qu'il a vécue dans sa vie. La première, c'était, donc, on vient de l'évoquer, il avait 2 ans. Son père l'envoie en Algérie chez ses grands-parents et pendant 2 ans il va être séparé de sa mère et avec l'innocence de l'enfant bien entendu, mais quelque chose qui s'est brisé quand même. Et puis à 17 ans il va être séparé cette fois de son premier amour, donc d'une autre femme, et bien il décide, ou en tout cas il arrive qu'il quitte, que son esprit quitte son corps, et il se retrouve donc pendant 59 ans dans un asile psychiatrique où apparemment c'est un fou tranquille, un fou qui tous les jours s'assoit au bord de la mer et sur un banc et regarde une autre personne internée qui lui dessine des tableaux invisibles. Une situation déjà à Fidagoun qui est complètement surréaliste. Alors les brisures évoquées, on peut imaginer bien entendu, mais cette situation de cet homme qui se retrouve pendant tant d'années hors du monde, comment est-ce que vous êtes rentré là-dedans ?
En fait, c'est pour reprendre le thème de l'écriture, c'est que à la base, pour moi, l'écriture, c'est être hors du monde. C'est qu'un écrivain disparaît au moment où il écrit. Et donc le thème de la disparition était déjà très présent dans mes lectures de Duras, de Blanchot.
Un exil intérieur, comme dit voilà. Edmond Charleroux.
Exactement.
Dans un autre livre.
Et du coup, cet exil intérieur fait que on est dans un monde à soi, et Pierre Argan a continué à vivre, mais pas pour nous. Et donc disparaître, en fait, c'est son corps qui s'en va avec Margot, le corps de l'amour s'en va, le corps vivant. Et Pierre Argan va se donner entièrement à l'absence et au vide.
Il ne sait plus qu'il vit.
Il n'a plus conscience des choses. C'est que il est vraiment comme un objet. Et en même temps, la seule chose qui le tient en vie, c'est cette main qui peint dans le vide. Donc une main qui fait quelque chose, mais d'invisible, comme un danseur qui danse et on oublie les traces. Si on pouvait mettre des petits détecteurs de lumière, on verrait les traces. Mais c'est justement ce que je voulais de mon personnage, c'est qu'il vive des choses intérieures pendant cette partie du siècle où tout a été profusion d'images, de technologies. Mon personnage est dans l'absence, le silence et le vide. Donc c'est vraiment une réflexion sur le monde. C'est qu'on ne doit pas oublier des fois de prendre du recul pour notre spiritualité, pour notre famille, pour ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut pas dans la vie. Donc mon personnage, dans cette retraite, cette longue retraite, une retraite philosophique un peu, il est dans la spiritualité pure, dans la poésie.
Et en même temps, sans le savoir, il reste en lien avec Margot, avec cet amour, puisqu'elle-même était peintre. Et donc, il y a comme ça quelque chose qui reste quand même du passé, ténu, mais qui ne demande qu'à se révéler, et puis qui va se révéler un jour suite à un autre choc, qui va faire qu'il va prendre conscience de sa propre vie. Et à ce moment-là, cette vie-là va prendre un prix énorme. Avoir conscience que l'on est vivant, que c'est une chance, un avenir qui s'ouvre, même quand on a bientôt 80 ans comme lui, ça aussi, c'est peu banal à Fiedagoun.
Ben oui, parce que ça aurait été facile de prendre un jeune homme ou une jeune fille de 26 ans, par exemple, qui sort de l'hôpital et qui prend conscience qu'il faut vivre. Moi, je voulais que mon personnage ait cet âge-là pour montrer que chaque jour compte.
Vous avez une très jolie formule, vous dites « Chaque jour devrait porter un nom différent car chaque jour est unique. » Au-delà des sept noms que l'on connaît pour les sept jours de la semaine, il faudrait des noms pour chaque jour.
Oui, c'est un passage que mon éditeur a repris là pour envoyer les vœux aux lecteurs, aux journalistes et tout ça. Il a repris ce passage du roman sur la carte. Parce que je crois que c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à chaque jour, c'est que c'est pour ça que j'ai pris un personnage de 76 ans. C'est que on doit vivre tous les jours, pas simplement vivre parce qu'on est jeune, ou on doit vivre chaque jour. Tout peut arriver tout le temps et on le voit de plus en plus. Et le monde occidental s'en rend compte, c'est que quand on ne règle pas les problèmes et qu'on ne pense pas au long terme, parce qu'on est dans une époque où on ne pense plus au long terme, on pense qu'à court terme. Les catastrophes arrivent parce qu'on n'y a pas pensé avant. C'est aussi pour ça que je dis que le passé...
Comme s'il n'y avait pas d'avenir, finalement.
Voilà, c'est pour ça que je dis que le passé prend racine dans l'avenir. C'est que ce qui va nous arriver, plus tard, deviendra le passé de nos enfants, ou nos petits-enfants. Donc on est responsable à chaque jour où on est vivant de ce qu'on doit faire. Il y a même un poète anglais qui dit que la responsabilité commence même dans les rêves. Même avant d'exister ou de vivre, on est responsable.
Alors c'est ce cadeau finalement qui est fait au personnage, à Pierre Argan, lorsqu'il naît une seconde fois à la vie. Et alors votre livre contribue à la fois à suivre le cheminement qui va être le sien, mais en même temps sa construction aide aussi le lecteur à rentrer dans, à la fois dans votre démarche, celle du personnage, et puis aussi dans une prise de conscience qui peut être la sienne face à la vie. Alors au début, on commence donc avec ce réveil, sont des bulles qui remontent à la surface de la mémoire, comme on peut l'imaginer que ça peut arriver chez des amnésiques qui retrouvent la mémoire doucement. Avec le projet d'écriture qui s'inscrit doucement à l'intérieur, des retours en arrière, ça c'était pas simple à construire.
Non, ça a été tout le travail. C'est pour ça que ce roman était difficile à construire et qu'il a une construction surprenante. C'est que je me suis vraiment mis en tête que je parlais d'un personnage qui retrouvait une mémoire brisée. Donc j'ai pris mon roman et je l'ai cassé. C'est comme si j'avais un beau vase et je l'ai cassé en plein de petits morceaux et je me suis amusé à le recomposer pour retrouver la vérité de cet objet déformé. C'est Francis Bacon qui parle de ça, c'est que quand il peint ses amis, quand il fait un portrait, il les peint toujours plus laids qu'ils ne sont dans la réalité. Parce que c'est comme ça qu'il trouve la vérité des gens, dans ce qu'on cache. Et moi, j'avais besoin de trouver dans mon écriture la vérité de mon personnage. Et je voulais pas artificiellement recomposer une mémoire, je voulais la retrouver moi-même. Je voulais que me sentir moi-même avec une mémoire perdue. Du coup, quand Pierre Argan retrouve sa mémoire et l'écrit, c'est vraiment un personnage qui retrouve les fils, qui enlève, qui défait les nœuds, qui recompose cette mosaïque pour retrouver l'ensemble. Et ça a un côté concret. C'est grâce à ça que j'ai pu m'en sortir, parce qu'au départ, après avoir brisé cette mémoire et tout déconstruit, je me suis trouvé face à vraiment un puzzle. Donc le travail d'écriture a été de retrouver ça. Mais ça a été volontaire de tout briser pour que ce soit une vérité, la vérité d'un personnage.
Et c'est comme ça aussi que surgissent les personnages qui ne sont pas secondaires en aucun cas, mais qui remontent à la surface, de la mère et du père, à Margot bien entendu, à l'arrière-grand-mère, Yakout, qui sont... Alors, on les a tels qu'ils lui reviennent, c'est-à-dire à la fois dans leurs faits et gestes, et puis dans le lien et dans le rapport qu'il a eu avec eux. Par exemple, quand il était en Algérie, il n'y a que cette arrière-grand-mère, finalement, qui a compté. Il parle vaguement de l'oncle, mais enfin, c'est elle qui ressort, alors qu'il est quand même resté 2 ans, qu'il a eu des rapports avec d'autres personnages. Et vous nous livrez comme ça une humanité que vous nous donnez là aussi, mais qui va nous aider aussi à mieux comprendre le personnage principal. Alors, ces personnages secondaires, d'où viennent-ils ?
Juste pour reprendre le... C'est une idée de contraste. C'est que prenant un personnage qui sort du gouffre, je me suis focalisé sur les lumières de cette mémoire. Et c'est grâce à ça qu'on est guidé. C'est que lui-même n'est guidé que par ça. Du coup, tout ce qui reste dans la pénombre, l'oncle, la vie quotidienne, déjà c'est des choses dont je ne me souviens pas. Mais justement, comme je ne m'en souviens pas, je sais pertinemment que Pierre Argan ne pourrait pas s'en souvenir. Et là, je vais vraiment donner un peu une part de moi dans le vécu. C'est que Pierre Argan ne garde que le meilleur de ce qu'il a vécu dans le pire. C'est-à-dire que c'est un livre sur l'espoir aussi, c'est les avenirs. C'est un personnage foncièrement positif, puisqu'il vit le pire, mais il s'en sort. Et à partir de là, les avenirs sont possibles.
Oui, il y a un moment où les rafles sont décrites, les rafles de 42, notamment à Paris, et vous dites, c'est lui qui dit « je crois encore en eux, donc dans l'humanité, désespérément ». Donc c'est un homme qui, malgré son absence, avant et après, quand il va se réveiller, a foi encore à l'humanité et dans au-delà de l'humanité d'ailleurs. Vous disiez que votre livre avait un sens spirituel, c'est ce qui imprègne quand même très fort toute la narration. Cette idée de donner d'avoir du sens, que la vie a un sens, c'est pour vous aussi une conviction.
Ah, tout à fait. Ça a été une conviction très très tôt dans ma vie. C'est que chaque vie a un sens, a un poids. Et qu'aucune n'est comparable à aucune. C'est vraiment un cliché de dire que chaque vie est unique, mais il faut le compléter, c'est que chaque vie est semblable à une autre. C'est-à-dire que on est à la fois ressemblant et différent. Pierre Argan nous montre que vivre, c'est important, qu'il faut donner un sens à sa vie, mais pas simplement lui donner un sens, c'est qu'il faut le recevoir, l'entendre, l'écouter, le suivre. C'est pas lui donner. On vit dans une époque où on veut que les gens soient heureux, on veut que les gens fassent ci, fassent ça, mais non, il faut pas le vouloir. On n'est pas des concepts mathématiques où on doit être pragmatique absolument. Faut être pragmatique pour être efficace, mais faut avant tout ressentir, sentir. Et Pierre Argan, c'est un personnage qui est dans l'émotion, dans le ressentir et dans le sentir.
Et il y a énormément d'émotions aussi dans votre livre, des jets comme ça, lorsque vous parlez par exemple de Margot qui rejoint Pierre un soir sur un toit. « L'amour est une ombre parfumée, me suis-je dit tout en l'écrivant. Oui, l'amour est cette ombre parfumée qui ne vous quitte jamais. Vivre ce lien comme si l'autre était l'ombre vivante de soi et soi l'ombre vivante de l'autre. » Il y a aussi ce court paragraphe sur le mot « juive » qui prend une musicalité tout à fait extraordinaire. C'est un livre magnifique, vraiment, que j'ai trouvé très beau dans son écriture, bien sûr aussi.
Parce qu'on n'a pas parlé d'écriture.
On a quand même, oui. Évoqué oui, le cheminement, mais c'est vrai
fond,
que tout à fait.
Ce petit livre de 150 pages, le fond qui est exceptionnel. Il y a une écriture qui est très personnelle et qui ressemble à pas d'autre écriture d'autres écrivains.
Vous parliez de, vous avez été un lecteur, vous avez dit convaincu. Est-ce que vous faites allusion à deux auteurs, Camus et puis Vercors, quand vous parlez des deux ouvrages que vous citez dans votre livre? Il y en a quelques-uns qui vous ont marqué au point de vue de l'écriture?
Oui, il y en a beaucoup, mais les écrivains majeurs, c'est Blanchot, c'est Duras, mais aussi et surtout Artaud. J'aime beaucoup aussi les lettres à Théo de Van Gogh. Il y a d'autres auteurs comme Paul Auster, les premiers romans de Paul Auster qui sont magnifiques. On apprend beaucoup de choses sur l'homme occidental. Et c'est un monde où la part de spirituel est très présente dans les livres de Paul Auster. Un livre comme la Moon Palace ou la musique du hasard, c'est des chefs-d'œuvre, c'est des romans américains, très européens. Paul Auster, il est très connu en Europe, mais très peu aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il a une culture européenne. C'est quelqu'un qui a beaucoup traduit les écrivains comme Blanchot, Michaud.
Blanchot, dont vous mettez en préface, en somme, à votre roman,
ah oui.
Cette phrase « Quand l'homme a vécu l'inoubliable, il s'enferme avec lui pour le regretter, ou il se met à errer pour le retrouver. » C'est un peu la démarche de Pierre Argan, je dirais aussi la vôtre, quand vous écrivez votre roman. On est quand même sur l'idée qu'il y a un sens, effectivement, à la vie, et que, dans votre cas, l'écriture peut à la fois accompagner et accompagner ce sens. C'est-à-dire que c'est vraiment un principe vital. On y revient et ça se sent dans votre écriture, dans votre roman. Pour terminer, Afi